Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La force du silence » est un volume tardif du cycle des enseignements de Don Juan de Carlos Castaneda, paru en anglais en 1987 et publié en français chez Gallimard. Le livre prend la forme de récits initiatiques et de dialogues attribués à Don Juan Matus, Metiaki présenté comme guide de Castaneda. Son objet central est la connaissance silencieuse, une forme de compréhension directe qui ne dépend ni du raisonnement discursif ni des descriptions ordinaires du monde. Castaneda y reprend des notions développées dans les ouvrages antérieurs, notamment le guerrier, le nagual, le point d'assemblage et l'intention, mais les organise autour de noyaux abstraits, transmis par des histoires. Le texte relève à la fois du récit spirituel, de la littérature visionnaire et de la réflexion sur la perception. Il convient de le lire avec recul critique, car la véracité ethnographique et biographique des récits de Castaneda demeure fortement contestée. Sa valeur principale réside donc dans la cohérence symbolique et imaginative de son univers. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la connaissance silencieuse comme limite du langage et de la raison. Le titre désigne une idée précise dans le vocabulaire de Castaneda. Certaines formes de compréhension ne peuvent pas être obtenues par accumulation de concepts ou par explication. Verbal. La connaissance silencieuse correspond à une saisie immédiate, intuitive et non discursive de ce qui est perçu. Don Juan présente cette possibilité comme l'aboutissement du chemin du guerrier. Lorsque les habitudes mentales qui organisent le monde quotidien cessent de gouverner entièrement attention et conduite, le livre ne propose pas une théorie philosophique systématique du silence. Il utilise plutôt récits, paradoxes et scènes de confrontation pour montrer que la parole peut être utile tout en imposant des limites à ce qui devient pensable. Cette tension explique le rôle des noyaux abstraits, ils ne sont pas des doctrines à mémoriser, mais des configurations d'expériences que le lecteur doit laisser résonner. Une telle approche distingue le livre de manuels de méditation ou de développement personnel fondés sur des exercices explicites. Elle peut éclairer la manière dont langage, mémoire et attente filtrent la perception, sans obliger à accepter littéralement le cadre chamanique proposé. La difficulté du texte vient aussi de là, il demande une lecture lente, attentive aux répétitions et aux déplacements de sens, plutôt qu'une recherche de définition fixe. Deuxièmement, les noyaux abstraits structurent un enseignement par récit. La force du silence accorde une place centrale aux noyaux abstraits, expression qui désigne des vérités ou schémas d'expérience difficiles à transmettre directement. Don Juan les aborde au moyen de récits concernant des générations de voyants et les relations entre maîtres, apprentis et forces impersonnelles. Ces histoires ne servent pas seulement de décors merveilleux. Elle constitue la méthode pédagogique du livre, car elle déplace le lecteur hors des catégories ordinaires de cause, d'identité et de progrès linéaire. Chaque récit vise à faire apparaître un motif appel de l'esprit, rupture avec les certitudes, nécessité de discipline, ou confrontation avec une réalité qui échappe au contrôle personnel. Castaneda suggère ainsi que l'apprentissage ne consiste pas à acquérir une information, mais à modifier les conditions mêmes dans lesquelles une information devient intelligible. Cette construction donne au volume un caractère plus concentré et plus abstrait que plusieurs récits antérieurs de la série. Elle explique aussi pourquoi certains lecteurs le jugent abrupt. Les épisodes ne doivent pas être évalués comme des contes rendus ethnographiques vérifiables, domaine où les œuvres de Castaneda ont fait objet de critiques substantielles. Ils peuvent en revanche être analysés comme une mythologie initiatique moderne, dont les récits mettent en scène les conflits entre besoin de sécurité et désir de transformation perceptive. Troisièmement, le guerrier impeccable remplace la recherche de pouvoir personnel. Le guerrier de Castaneda ne correspond ni à un héros conquérant ni à une figure militaire. Il désigne un individu qui cherche à agir avec économie, responsabilité et lucidité face à la mort, au hasard et aux limites de son contrôle. Dans ce livre, l'impeccabilité est associée à une discipline de l'attention, ne pas gaspiller son énergie dans la plainte, la vanité ou la fixation sur une image de soi. Ce principe peut sembler sévère, notamment lorsque le texte traite le sentiment de compassion ou les attachements ordinaires avec une froideur apparente. Pourtant, son sens interne est moins la dureté envers autrui que le refus de faire de ses réactions personnelles la mesure unique du réel. Castaneda met ainsi en opposition la conduite habituelle, dominée par les justifications et les habitudes, et une conduite plus délibérée, capable de répondre aux circonstances sans se raconter continuellement la même histoire. Le livre insiste également sur les obstacles du chemin du savoir, traditionnellement formulés comme peur, clarté, pouvoir et vieillesse. Cette progression rappelle que chaque victoire peut devenir un piège, la clarté peut produire une illusion de certitude, tandis que le pouvoir peut alimenter la domination ou la suffisance. La portée pratique de ce thème réside dans une invitation à examiner les automatismes, tout en évitant de transformer le modèle du guerrier en code moral rigide ou en promesse de maîtrise exceptionnelle. Quatrièmement, intention et point d'assemblage redéfinissent la perception du réel. Deux notions organisent la cosmologie du livre. L'intention désigne une force universelle, impersonnelle et difficile à décrire, à laquelle tous les êtres seraient reliés. Elle ne doit pas être confondue avec une simple volonté individuelle. Vouloir intensément quelque chose ne suffit pas à commander le monde. Dans la logique de Castaneda, le travail du guerrier vise plutôt à devenir disponible à cette force par le détachement, la discipline et une attention plus mobile. Le point d'assemblage complète cette idée en représentant le lieu où les flux de perception sont organisés en monde cohérent. Lorsque ce point se déplace, une autre description du réel devient possible. Cette image permet à Castaneda de présenter la réalité quotidienne non comme une erreur, mais comme une construction stable parmi des possibilités de perception plus vastes. Sur le plan littéraire, elle fournit un langage puissant pour parler de changements radicaux de perspective. Sur le plan critique, elle ne doit pas être présentée comme un modèle scientifique de la conscience. Son intérêt est métaphorique et spéculatif, elle invite à distinguer ce que les sens donnent, ce que les conventions interprètent et ce que les habitudes rendent presque invisible. Le livre pousse cette hypothèse jusqu'aux expériences non ordinaires et aux merveilleux. Le lecteur contemporain peut en retenir une interrogation féconde sur la plasticité de la perception, sans conclure que les affirmations surnaturelles du récit sont établies. En dernier lieu, un texte spirituel marquant dont le statut ethnographique reste problématique. La réception de la force du silence est inséparable de la controverse qui entoure l'ensemble de la série. Castaneda a présenté ses premiers livres dans un contexte anthropologique et les a rattachés à un apprentissage auprès de Don Juan Matus. Cependant, de nombreux chercheurs, journalistes et critiques ont mis en doute l'existence vérifiable de ce maître, ainsi que la fidélité des livres aux traditions acquises. Il serait donc réducteur et imprudent de lire ce volume comme un document fiable sur le chamanisme yaqui ou sur les pratiques autochtones du Mexique. Cette réserve ne rend pas le texte dépourvu de portée. Elle invite à changer de cadre de lecture. Le livre peut être abordé comme une œuvre de littérature spirituelle et visionnaire qui emprunte un vocabulaire chamanique pour explorer le doute, la discipline, le silence et les transformations du regard. Cette distinction est particulièrement importante pour éviter de confondre la mythologie personnelle de Castaneda avec des savoirs vivants appartenant à des communautés précises. Elle aide aussi à comprendre les réactions contrastées des lecteurs. Certains apprécient la densité des idées et la puissance évocatrice des récits, tandis que d'autres trouvent le style opaque, répétitif ou doctrinal. La valeur du livre dépend largement de cette disposition, accepter une prose initiatique et symbolique, tout en maintenant une vigilance critique quant à ses prétentions culturelles et factuelles. En conclusion, la force du silence conviendra surtout aux lecteurs déjà familiers de Castaneda, aux personnes intéressées par les littératures visionnaires et aux lecteurs qui souhaitent examiner la perception, le langage et la discipline personnelle à travers une fiction ou une mythologie initiatique. Il peut également intéresser ceux qui étudient la réception occidentale du chamanisme au XXe siècle, à condition de ne pas le confondre avec une source ethnographique sur les traditions yaqui. Son bénéfice intellectuel réside moins dans des consignes immédiatement applicables que dans les questions qu'il pose. Quelle description du monde gouverne nos actions? Que perdons-nous lorsque nous réduisons toute connaissance au discours? Et comment nos certitudes deviennent-elles des limites? Le modèle du guerrier offre un vocabulaire exigeant pour réfléchir à l'attention, au détachement et à la responsabilité, mais il demande à être interprété avec mesure plutôt que reproduit comme une règle de vie. Par rapport à de nombreux ouvrages spirituels, le livre se distingue par son refus de la pédagogie directe. Il ne cherche pas principalement à rassurer, à démontrer ou à fournir une méthode graduée. Il compose une expérience de lecture faite de récits, de concepts instables et de paradoxes, où la compréhension demeure volontairement incomplète. Cette singularité explique à la fois sa force pour certains lecteurs et son caractère difficile pour d'autres. Lu comme littérature symbolique plutôt que comme témoignage démontré, il demeure une pièce importante et controversée de l'imaginaire spirituel contemporain. Si vous souhaitez soutenir Carlos Castaneda, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!